Bonjour ou bonsoir, quel que soit le moment où vous écoutez ce message. J'espère que vous allez bien. Je prie que Dieu vous accorde son shalom. Alors qu'en ce vendredi saint, nous commémorons la mort de Jésus, je vous invite à méditer sur ses dernières paroles sur la croix. Il y a quelques semaines, Nirine a mis en ligne une méditation sur les premiers versets de Jean 9. Jésus invitait ses disciples à ne pas chercher le coupable, à ne pas s'arrêter à la cause, le pourquoi, mais à aller au-delà et à trouver la finalité, le pourquoi. Toutefois, Jésus n'a pas condamné le fait de demander pourquoi. Je vais lire Matthieu 27, les versets 45 à 46. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors que Jésus vit ses heures les plus sombres, toute la création s'assombrit. Une autre traduction pour le pays entier, c'est « toute la terre fut plongée dans l'obscurité ». J'imagine la stupeur, le questionnement des gens qui se demandent pourquoi il fait nuit en plein jour. Et d'un coup, un cri déchire le silence ambiant. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus ne cite pas seulement le psaume 22. Il vit cet abandon. Il s'écrit en araméen la langue parlée au quotidien, sa langue maternelle, celle que l'on utilise quand l'émotion est intense. Cette parole est la quatrième que Jésus prononce. Elle est au cœur de ce que vit Jésus sur la croix. C'est ce pourquoi il a accepté d'aller jusqu'au bout. Avant de nous intéresser de plus près à cette question de Jésus, parlons brièvement des trois premières déclarations. Dans Luc 23, le verset 34, il prie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans Luc 23, le verset 43, nous lisons « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Et dans Jean 19, les versets 26 et 27, il dit à sa mère « Mère, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples « Voici ta mère. » Par ces trois paroles et malgré ce qu'il vit, Jésus pense aux autres. Il prie pour ses ennemis et pour tous ceux pour qui il est en train de mourir. Il répond à celui qui fait appel à lui. Il prend soin de ceux qu'il aime. Jésus prie pour nous. Il répond quand nous faisons appel à lui. Il prend soin de nous parce qu'il nous aime. Puis vient ce cri bouleversant. Dieu l'a abandonné. Le Dieu de lumière s'est retiré alors les ténèbres ont régné sur toute la terre. Que tous l'abandonnent, on peut comprendre, mais son Père. Au moment où Jésus prenait sur lui nos péchés, le Dieu trois fois saint s'est détourné de son Fils bien-aimé. Là, Jésus a souffert ce que je méritais d'endurer. Pourquoi? Pour que Dieu m'accorde la vie éternelle, parce que je suis sauvé par la foi. Dans ce pourquoi se trouvent tous nos pourquoi, tous nos cris de désespoir, toutes nos souffrances. Nous avons tous entendu cette question, si Dieu existe, pourquoi si, pourquoi cela? Et parfois même elle est posée avec un ton accusateur, si ton Dieu existe, pourquoi la souffrance, pourquoi les guerres? Quant à nous, nous posons la question de manière plus nuancée. Pourquoi Dieu permet-il que je traverse cette épreuve? Pourquoi permet-il cette pandémie de coronavirus? Permettez juste une réflexion. Avez-vous remarqué que nous demandons pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'injustice? Pourquoi la misère? Pourquoi la guerre? Pourquoi tant d'enfants sont maltraités, embrigadés, abusés? Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas mes prières? Mais très rarement, nous nous demandons pourquoi suis-je en bonne santé alors que d'autres sont éprouvés par la maladie? Pourquoi ai-je la joie d'avoir des enfants alors que des couples souffrent de ne pas en avoir? Pourquoi ai-je un travail alors que d'autres sont au chômage? Pourquoi suis-je comblée de biens alors que d'autres manquent du nécessaire? quels sont les pourquoi que nous nous posons. Comme je l'ai dit, ces questions sont légitimes, mais n'en restons pas là. Acceptons de ne pas tout comprendre. Ne pensons pas que nous avons le droit d'avoir une réponse, qui plus est, une réponse qui nous convienne. Acceptons de lâcher prise, de rester à notre place, d'être limité. Acceptons que Dieu seul est Dieu, qu'il est souverain, que tout est dans sa main. Reconnaissons que les silences de Dieu ne signifient pas son absence à nos côtés. Au contraire, Dieu est là, au cœur de nos vies. Et si, par ces silences, Dieu souhaitait nous impliquer? Il nous responsabilise et ne va pas accomplir à notre place la mission qu'il nous a confiée, à nous en tant qu'Église et à nous personnellement. Dieu s'est incarné non seulement en Jésus, mais il s'incarne en nous qui sommes le corps de Christ. En étant son corps dans ce monde, rendons visible le Dieu que les autres ne voient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour soulager, pour aider l'autre qui demande où est Dieu dans ses souffrances? Et sachons aussi voir Dieu au travers de l'autre. À la croix, Jésus a été percé pour nos péchés, il a été brisé pour nos fautes, mais il s'est aussi chargé de nos maladies. Lisons Ésaïe 53, les versets 3 à 6. Ésaïe 53, versets 3 à 6. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. La guérison en hébreu va au-delà du sens que l'on donne en français. Quand il est question de guérison, on ne pense pas seulement à la santé du corps. D'ailleurs, selon la définition de l'OMS, la santé n'est pas l'absence de maladie, mais l'état de complet bien-être physique, mental et social, et nous pouvons ajouter le bien-être spirituel. La guérison, en hébreu, englobe aussi la notion de restauration, de paix, de plénitude, qui est un état parfait, agréable, selon la volonté de Dieu. Quand Ésaïe ou d'autres prophètes parlent de guérison, ils annoncent au peuple rebelle que le salut ne se trouve que dans le retour à Dieu. Jésus s'est offert pour mourir à notre place. C'est par ses blessures, ses souffrances que nous trouvons la vraie guérison. La vraie guérison qui n'est autre que le salut en Jésus-Christ. Jésus seul nous guérit de toute maladie. Il nous guérit de la maladie pour laquelle il n'y avait pas de guérison, celle que l'on appelle péché. Revenons aux dernières paroles de Jésus sur la croix. Dans Jean 19, le verset 28, il est écrit « Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Même les détails l'attestent, Jésus est bien le Messie annoncé. Un commentateur l'a évoqué, et si Jésus avait demandé à boire moins pour étancher sa soif que pour s'éclaircir la voix? À cause de l'importance de ce qu'il s'apprêtait à prononcer, il était impératif que la voix de Jésus soit entendue et bien comprise. Et dans Jean 19, le verset 30, nous lisons « Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Jésus dit avant de mourir, j'ai achevé la mission pour laquelle je suis venu. » Le mot traduit par « tout est accompli » tetelestai avait de nombreuses significations du temps de Jésus. En voici trois qui nous aide à en comprendre la vraie dimension. Tétélestai est le mot qu'un serviteur utilisait pour dire à son maître qu'il avait achevé une tâche « J'ai terminé le travail que vous m'avez donné à faire ». Tétélestai était aussi un terme de commerce utilisé couramment par les Grecs. Il signifiait la fin d'une transaction. Quand le dernier versement était fait, on pouvait dire tétélestai, c'est-à-dire la dette est acquittée. Des reçus anciens ont été retrouvés sur lesquels était inscrit le mot tétélestai, payé en entier. Le choix d'un agneau pour le sacrifice au temple était une tâche importante. On examinait tout le troupeau et lorsqu'on trouvait un agneau parfait, on disait tétélestai, soit mission accomplie. Dans un sens, Jésus s'est littéralement exclamé « La mission que tu m'as confiée est achevée, la dette est payée, l'agneau expiatoire est trouvé, tout est accompli. » La dernière parole se trouve dans Luc 23, le verset 46. « Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alors qu'il a tout accompli, la relation avec Dieu, son Père, est rétablie. Cette parole exprime à la fois la confiance, la paix et une espérance. Pourtant, Jésus est en train de mourir. Dans ce que nous vivons, que nous soyons remplis de cette confiance, de cette paix, de cette espérance qui va au-delà de toute compréhension. Par sa mort, Jésus a anéanti la puissance du diable. Il nous a libérés de la peur de la mort. La mort fait partie de notre existence humaine, mais grâce à ce que Christ a fait pour nous à la croix, il nous permet de ne plus craindre le caractère définitif de la mort, mais de la considérer comme un passage nous conduisant véritablement dans la présence de Dieu. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, les versets 55 et 57. L'histoire ne s'arrête pas à la mort de Jésus. Je vous invite à lire les derniers versets d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, les versets 10 à 12. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste, il les déclarera juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Le message de Christ, mort et ressuscité, est le seul message qui apporte le vrai salut, la vraie paix, la vraie guérison. Que par nos vies, nous prêchions ce message à ceux qui nous entourent et qui, dans ce temps de pandémie, vivent dans le questionnement et dans l'angoisse. Le Dieu d'éternité est un refuge. Il est depuis toujours un soutien ici-bas. Deutéronome 33, verset 27. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des autres. Pour terminer, je vous laisse les versets 23 à 26 de Nombre 6. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.